Salutations à toutes et à toutes, hein, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau Tech Time. On vous le rappelle, c'est un podcast où on parle de technologie, de société et des sujets du genre. Alors, du coup, avec Enzo, on a décidé simplement de mélanger plusieurs sujets. On va parler évidemment un petit peu d'actualité autour de la chaîne YouTube, autour même de l'actualité tech en général. On va parler d'un sujet de société, qui est le titre de ce podcast, hein, vous l'avez bien deviné. Et puis, pour terminer, on parlera un petit peu de vente autour simplement de Suze, et puis on y reviendra évidemment dans un podcast un peu plus en détail prochainement. En tout cas, on va commencer donc avec des sujets un peu plus d'actualité, et c'est Enzo évidemment qui s'est chargé de choisir deux questions à me poser autour un petit peu de l'actualité de la chaîne et même de l'actualité en général, qu'il suit évidemment avec pertinence. Et Enzo, je te laisse poser donc la toute première question de ce podcast autour de l'actualité, je sais pas, de la chaîne ou peu importe.
Alors, salut Romain, j'espère que tu vas bien.
Nickel, hein.
Du coup, j'ai vu sur tes stories Instagram que tu es en train de tester le Z Fold 3. Du coup, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, pour t'en dire quelques mots, c'est vrai que Enzo, moi j'aime beaucoup hein, ce Galaxy Fold, enfin ce Galaxy Z Fold 3, le nom est vraiment super long. Mais sinon, je trouve vraiment que c'est un bon produit. En matière d'hardware, il est vraiment très très bien conçu, je trouve. On est sur un produit qui est fiable, qui a vraiment de très très bonnes finitions. C'est un super produit qui coûte certes son prix, mais voilà, c'est un très très bon téléphone. Enfin, un mélange entre le smartphone tel qu'on le connaît un petit peu chez Samsung, et puis même chez la concurrence, et un genre de tablette, ou en tout cas d'un écran bien plus grand et large, enfin un petit peu un iPad mini dans le format. Et je trouve que ça me paraît pour moi comme un produit un petit peu deux en un, c'est un petit peu l'apogée des Galaxy Note, c'est-à-dire qu'on peut prendre des notes sur le grand écran, regarder du contenu, faire du multitasking en répondant par exemple sur WhatsApp ou sur Slack, ensuite d'écrire sur un Google Docs avec un petit clavier à côté, etc. On peut faire tellement de choses avec ce petit Fold, et puis sur le petit écran, ben, on utilise comme un petit smartphone normal, compact. Il est peut-être un petit peu lourd hein, si je devais citer quand même un défaut, mais voilà, je vais pas vous spoiler quand même toute ma vidéo que je suis en train de préparer, mais voilà, pour moi, c'est quand même un très très bon produit. C'est l'apogée vraiment du Z Fold. C'est un produit que je pourrais enfin recommander à des gens. Le Z Fold 1, c'était pour moi une vraie bêta. Hein. J'en avais parlé sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, etc. Pardon. Et même sur TikTok, hein, j'en avais parlé rapidement. Le Z Fold 2, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais selon les retours, bon, c'était pas mal, mais c'était pas parfait. Et le Z Fold 3, ben ouais, c'est du très très bon qu'a fait Samsung. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif, bien que c'est pas parfait, comme je l'ai dit. Mais en tout cas, moi, j'apprécie vraiment, vraiment ce Z Fold 2-3. Et voilà, je terminerai avec ça et je te laisserai donc enchaîner sur la deuxième question d'actualité.
Alors, deuxième question sur l'actualité, hein, on va aller directement vers la concurrence. Du coup, Apple va annoncer ses nouveaux iPhones. Tes attentes sur ces derniers?
Au niveau des attentes, au niveau des prochains iPhones, donc ça va être la série 13, hein, mais bon, j'imagine que tu le sais déjà, j'espère que vous le savez aussi, hein, qui nous écoutez. Au niveau donc des iPhones 13, moi j'ai pas de grosses attentes sur les produits classiques, entre guillemets, je trouve que le 12 c'est un produit qui est ultra réussi, qui est propre dans sa façon d'être conçu, ça rappelle un petit peu des iPhones un peu plus anciens, etc. Donc je suis très très fan du concept de l'iPhone 12, qui est pas mal du tout. Il me manque peut-être pour moi un écran 90 ou 120 Hertz, mais bon, Apple le fera pas, donc ça c'est sûr. Ils le réserveront d'abord à la série Pro, donc les iPhone 13 Pro peut-être, à voir au final, lors de la conférence, ce que Apple va annoncer. Mais voilà, je suis très curieux de voir un petit peu ce que va proposer Apple. Mais disons que je suis pas très hype. Enfin, en tout cas, depuis que j'ai acheté le 12 donc, et que j'ai équipé la petite coque Suze, mais on en parlera à la fin, ça, je trouve vraiment qu'il est très très fiable. Il me permet de travailler, il me permet de me divertir, il me permet de consommer du contenu, il me permet de faire tout en fait correctement. Voilà, donc c'est un très bon produit, très très bon produit, pardon, qui s'intègre par contre évidemment dans l'écosystème Apple. Donc voilà, c'est à partir du moment où on commence à avoir l'iPhone, on a envie de l'iPad, on a envie de l'Apple Watch. On a envie du Mac, on a envie de tout. Bon, moi, j'ai pas le Mac pour le coup parce que j'aime bien mon petit PC Windows. Mais oui, forcément, on a envie de tout avoir. Moi, personnellement, j'ai l'Apple Watch, j'ai l'iPad en plus. Voilà. Bon, après, je vais pas détailler un peu plus, mais voilà. Pour ce que je pense de l'iPhone 13, globalement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc, je pense qu'on va passer au sujet principal de ce podcast-là, qui est un sujet très tendance. Tu me contrediras pas, Enzo, pour le coup. C'est vraiment un sujet tendance, évidemment. Le pass sanitaire. Alors, ici, on va pas politiser le débat. CNews et compagnie le font très bien, ils en parlent à longueur de journée. Non, ici, on va rester sur le côté un peu plus technique du truc. On va essayer un petit peu de débattre parce que je sais qu'avec Enzo, on sera peut-être pas forcément d'accord sur certains points clés. Et peut-être vous aussi qui nous écoutez, hein, n'hésitez pas à nous le dire simplement sur les réseaux sociaux ce que vous pensez un petit peu de ce truc-là au niveau technique, etc. Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous trouvez ça fiable? Est-ce que vous trouvez ça intéressant dans la démarche auquel c'est fait en matière de résultats, etc. Donc voilà, en tout cas, Enzo, évidemment, si tu as une question, si tu as une suggestion autour de ce sujet, je te laisse commencer si tu le souhaites, autour évidemment du pass sanitaire, si tu as évidemment une question à me poser, peut-être, hein, on ne sait jamais, voilà, je te laisse continuer.
Alors, on va rester un peu dans le côté tech. J'avais une question, c'est on parle souvent de fraude au QR code avec les passes sanitaires, mais du coup, quel enjeu a la tech dans cette fraude, on va dire?
Ok, bah, je trouve que c'est une très très bonne question. Au niveau des enjeux technologiquement parlant, c'est sûr qu'une fraude, c'est bah, c'est jamais bon, hein, faut dire ce qui est, et surtout que derrière ça a des coûts, forcément. Mais ouais, au niveau des fraudes, enfin moi je me questionne vraiment au niveau de. Enfin, c'est juste, c'est très très cher, c'est très peu accessible pour beaucoup de gens. Donc, forcément, le vaccin, il est, enfin, le vaccin est donc, par conséquence, le pass sanitaire est entre guillemets, je dis bien, gratuit, parce que voilà, c'est des guillemets où on sait qu'il y a, il y a d'autres conséquences derrière qui font que c'est gratuit, hein, forcément. Mais voilà. Et du coup, non, c'est sûr que technologiquement et techniquement parlant, la fraude, forcément, elle est complexe. Moi, je trouve la faille, elle est vraiment complexe, parce qu'à partir du moment où ils ont décidé de faire un QR code, pour moi, ça limite vraiment, vraiment le risque technologiquement parlant, techniquement parlant, mais en fait, si on veut, la fraude, elle est plus humaine, plus que technique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prêter son pass sanitaire ou vendre son pass sanitaire, vendre son QR code, entre guillemets, plus qu'au final, c'est quelqu'un qui va faire un. Parce qu'en fait, on peut faire des faux QR codes, mais le résultat de la personne qui va la scanner sera. Bah, au final, il n'y aura rien sur ce QR code parce qu'on inscrit une donnée sur un QR code, techniquement parlant. Et du coup, la fraude, en fait, c'est humaine qu'elle est faite, mais pas forcément technique. Donc c'est des gens qui vont distribuer des faux passes sanitaires, mais voilà, c'est quelqu'un qui est habilité à le faire qui va distribuer ça. Donc c'est pour ça que techniquement parlant, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, à partir du moment où c'est un QR code, et c'est ça où ils ont été très intelligents, sans pour autant donner mon avis sur le produit en lui-même, mais c'est que techniquement parlant, le QR code est un système qui est fiable, qui est pas sans faille, mais qui est bien plus fiable que par exemple un simple numéro, où clairement, là, on peut vraiment aller beaucoup plus loin au niveau des failles, mais là, le QR code... Pour moi, évidemment, je trouve que c'est une donnée qui est bien plus fiable que ce qu'on aurait pu avoir de façon peut-être un peu plus classique, j'en sais rien, un code barre ou à des trucs un peu plus basiques, entre guillemets, qu'on peut nous distribuer, par exemple, pour des papiers identitaires, etc. Où là, les fraudes, évidemment, se font de plus en plus. Mais le QR code, moi, je trouve que c'est une idée qui me paraît assez pertinente. Et donc, technologiquement et techniquement, là, vu que de la question que tu m'as posée, je trouve ça plutôt intelligent. Et la fraude, oui, bah, elle est, comme je l'ai dit, elle est plutôt humaine. Et voilà. Si d'ailleurs tu veux réagir à ce que je viens de dire, ou si t'as rien à rajouter, je sais pas, je te laisse continuer.
Non, j'ai rien à rajouter sur la question. Elle a été très bien répondue.
Ok.
On entend souvent dire que jamais dans notre pays, on aura vécu une telle atteinte, pardon, aux libertés individuelles. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
C'est une question que j'ai envie de traiter philosophiquement pour ma part, plus que vraiment politiquement, parce que je suis pas, on va dire, je suis pas habilité à en parler politiquement. Mais au niveau des atteintes à la liberté, je dirais que, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est éphémère. C'est-à-dire que on est dans une situation exceptionnelle, et forcément, situation exceptionnelle fait qu'il y a on va dire, des conséquences exceptionnelles, donc sur l'économie, sur nos droits, sur nos devoirs, sur plein de choses. Et en fait, pour moi, à partir du moment où on est dans de l'exceptionnel, on est évidemment sur des textes de loi qu'on va peut-être pas forcément respecter parfois, ou qu'on va mettre de côté juste pour cette période-là. Alors évidemment, quand c'est dans une période de guerre, dans une période plus tendue, c'est pas forcément très bien. Mais là, évidemment, on est dans une période où c'est plus, c'est, on va dire, c'est du domaine sanitaire. Et pour moi, évidemment, le fait d'avoir un pass sanitaire ne me dérange pas forcément, moi personnellement. Mais voilà, je comprends qu'évidemment, philosophiquement et même éthiquement, on n'est pas forcément d'accord avec ce concept-là. Mais moi, personnellement, voilà, je dis clairement, c'est pas un truc qui me dérange. Voilà, le fait que ça permet de sortir d'une crise sanitaire, de problèmes qu'on peut avoir sanitairement parlant, enfin je sais pas si ce mot se dit, hein, mais voilà, je trouve que ça reste quand même pertinent. Après, toi, est-ce que tu es un peu sur la même longueur d'onde, tu trouves ça un peu moyen, le fait que on a vraiment un pass en fait pour accéder à des lieux? Enfin, ça peut paraître bizarre dit comme ça, donc toi t'en penses quoi?
Déjà, je pense que moi, je suis pas contre le vaccin parce que je suis vacciné, mais après, les libertés individuelles, l'égalité entre les citoyens, elle est un peu mitigée. Après, moi, je pense que la vaccination, ça doit rester un choix totalement personnel. Et il faut que la personne qui soit vaccinée pèse un peu sa situation, balance risque-avantage. Un enfant qu'on demande à 12 ans de se faire vacciner, je ne pense pas que c'est nécessaire. Par contre, un retraité de 65 ans, je pense que cela est nécessaire. Donc, il faut que ce soit un consentement libre et éclairé. Après, au niveau du pass sanitaire, après, je rajouterai juste ça parce que, comme tu dis, sur CNews, ils savent très bien le faire. Après, le pass sanitaire, il peut s'envisager pour des manifestations de milliers de personnes, mais je pense que l'imposer dans les actes de la vie quotidienne est un petit peu excessif. Et je vais te poser une dernière question, elle me vient un peu dans la tête. Des policiers pas vaccinés qui contrôlent des vaccinés, est-ce que tu trouves pas que c'est plutôt l'enrôlement d'une partie du peuple contre un autre et qui va peut-être avoir des tensions?
Alors, moi je trouve ça c'est un peu bête par contre. C'est juste, mais ça c'est plus politique, genre de pas se mettre la police à dos, etc. Donc ça c'est vraiment, moi je trouve ça. Enfin, si on l'impose aux citoyens, autant l'imposer à tous les citoyens, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve ça peut-être un petit peu bête, mais bon après c'est plus un débat politique ça. Mais voilà, c'est, je suis pas forcément. Enfin, je trouve ça pas ça forcément normal. Après, voilà, c'est y a des potes qui contrôlent le pass sanitaire qui ne l'ont pas aussi eux. Donc voilà, c'est des trucs de société qui arrivent aussi. Hein. C'est pas nouveau le fait qu'on t'impose quelque chose et au final l'autre il l'a pas fait. Donc voilà. Après, c'est comme tu dis, ça reste un choix individuel. Mais moi, je pense que voilà, c'est en fait, je vais aller encore une fois dans un débat plus philosophique, mais j'espère que j'ai répondu évidemment à ta question. Mais moi, je pense que en fait, en France et même dans des pays occidentaux, on n'est pas habitué à faire des choix qui sont collectifs. En fait, les choix collectifs, ils nous sont toujours imposés de force et en fait, c'est ça qui est un peu malencontreusement pour moi. Enfin, en fait, politiquement, c'est ouais, comme, enfin, c'est toujours de force qu'on t'impose des choses collectivement. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, le fait que tu payes tes impôts, c'est une contrainte et c'est pas, ça c'est un truc collectif, l'impôt. Et pourtant, c'est une contrainte. Les gens le subissent comme une contrainte. Mais pourtant, là, par exemple, on prend le pass sanitaire. Le pass sanitaire, on en a besoin pour accéder à des lieux, etc. Mais en fait, moi, je le compare et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est philosophique. Voilà, tu parles comme un philosophe. Et après, voilà, vous pensez ce que vous voulez, vous qui nous écoutez, hein, mais. Moi, je trouve que, par exemple, le pass sanitaire est un truc qui permet d'accéder à quelque chose. Par exemple, je vais prendre l'exemple quotidien, encore une fois. Par exemple, pour aller dans un magasin, on doit utiliser quelque chose du quotidien, donc c'est-à-dire une route. Donc, si après, on peut y aller à pied si on a envie, mais c'est plus long, c'est plus chiant, et pareil, bah, pour moi, le pass sanitaire, c'est la même chose. Par exemple, si on ne veut pas se faire vacciner, on peut faire des tests PCR, on peut payer plus, etc., mais c'est plus long, c'est plus chiant, et bah, pour moi, le trajet du quotidien, c'est pareil. On peut faire du vélo, on peut y aller à pied, on pollue moins, voilà, on a ses raisons, mais où on veut pas utiliser les routes, ou j'en sais rien, et ben du coup on a une contrainte. Et par exemple, pareil, on veut par exemple, j'en sais rien, utiliser seulement. Enfin, on ne veut pas utiliser par exemple de magasins, de grandes surfaces, mais il y en a partout, et on veut seulement se faire son jardin, etc. Bah, c'est une contrainte aussi. C'est que du coup, on veut pas utiliser le moyen de facilité pour accéder à un lieu qui a tout, qui a tous les produits dedans. On préfère cultiver, attendre, etc. Et donc là aussi, on a affaire à une contrainte. Donc là, c'est très philosophique ce que je dis, hein, donc voilà. Mais en fait, c'est collectivement, en fait, on est habitué à faire des choix, enfin des choix collectifs par contrainte qui sont imposés. Et ça, je pense que c'est, voilà, socialement parlant, c'est un problème, c'est qu'en France, on préfère faire le choix pour soi et pas pour les autres. Et le pass sanitaire, pour moi, c'est un choix qui est fait pour les autres. Le vaccin, c'est un choix pour les autres. C'est pas un choix qui est pour soi. Parce que moi, fondamentalement parlant, bah, j'ai pas forcément de risque, tu vois. Mais moi, pour ma famille, pour les gens qui m'entourent, etc., je trouve que c'est intéressant et important de le faire. Donc, c'est collectif. Je l'ai fait collectivement en pensant collectivement. Et c'est vraiment ça qui est intéressant philosophiquement, encore une fois parlant, et pas politiquement. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant autour de ce sujet-là qui fait très beaucoup de débats, hein, et pourtant, voilà, en fait, être pour ou contre, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est surtout penser collectivement, c'est le premier truc qui me vient en tête lorsqu'on parle de ce sujet-là. Et pourtant, on est dans une société qui est assez égoïste, qui pense d'abord à elle avant de penser aux autres, et le peu de personnes qui pensent aux autres, au final, se font un petit peu bafouer par les personnes, en fait, qui pensent plutôt de façon, comment dire, très très égoïste en fait. Voilà, voilà ce que je pense un petit peu de ce sujet-là. J'ai un peu beaucoup développé quand même, mais je sais pas si t'as trouvé ça intéressant.
Ouais, ça va, c'était intéressant. Bon, après, on va peut-être passer à la suite. Enfin, j'ai plus
Ouais.
rien à dire, mais
Ouais, ok. Ouais,
tout,
bah du coup.
c'est pas un podcast politique, donc on va
C'est
pas.
ça, bon, on n'est pas sur CNews, hein. On n'est pas sur BFM TV, avec les gros débats de, là, de Éric Zemmour et tout, donc on n'est pas sur ça. Hein. Du coup, je te propose qu'on parle un petit peu de Suze, si tu as des questions à poser autour de la marque, j'en sais rien, ou voilà, si tu as une ou deux questions autour de la création de la marque, voilà, ça peut être intéressant d'en parler un tout petit peu à la fin du podcast, quoi, si tu as une question. Ou si tu n'en as pas dit le clairement.
Si, bien sûr, j'ai peut-être une ou deux questions. Comment t'es venue l'idée de créer une marque de vêtements?
Alors, pour être sincère, c'est un truc que je veux faire depuis super longtemps. Le vêtement lui-même, enfin les vêtements, moi je trouve ça très intéressant, le fait de comprendre la conception, de voir comment ça fonctionne, etc. Même en fait, j'ai visité en 2018 une usine où ils faisaient enfin, ils faisaient de l'ourdissage, enfin, c'est des trucs un peu techniques, donc je vais pas aller trop dans la technique. Mais en gros, c'était du tissu, quoi, voilà, pour faire simple. Et j'ai vu toute la conception, en fait, par exemple, d'un jean, d'un torchon de A à Z. Et j'étais en mode, mais c'est incroyable, c'est incroyable le savoir-faire qu'il faut et tout, la conception, l'automatisation dans ces sociétés-là et tout. Pour l'anecdote, c'est à Romans-sur-Isère, hein, que la boîte est basée. Je vais pas dire le nom par souci de confidentialité, je vais y arriver. Mais voilà, en tout cas, ça m'est vraiment venu de là de base et surtout le vêtement, je trouve ça trop bien. Et puis évidemment, sur Suze, il y a des accessoires qui permettent aussi d'alimenter un petit peu le quotidien de chacun. Donc voilà, ça m'est venu un petit peu comme ça. Et voilà, c'est tout. En fait, c'est un peu tout bête, hein, dans l'idée. Après, je te laisse passer à ta deuxième question. Si tu veux.
La charte graphique
Ouais.
de ta marque,
Ouais.
bah, parle-nous-en un petit peu. Qu'est-ce qui
Ok.
t'est venu à l'idée de créer une marque minimaliste, un tel logo,
Ouais. Au niveau du logo, donc c'est pas moi qui l'a réalisé, c'est Lucas, il se reconnaîtra. C'est lui qui a fait les deux logos, le logo simple, minimaliste, et le logo plus design. Donc il se reconnaîtra et je le remercie d'avoir réalisé les logos. Mais voilà, l'idée d'avoir créé un petit peu le minimalisme, pour moi, c'est un truc qui a ses tendances, mais aussi qui est très intéressant dans la manière d'être pensé. Moi, je trouve que le minimalisme, c'est vraiment. Enfin, c'est pas la simplicité, c'est du minimalisme. Moi, je trouve ça assez un peu différent entre les deux termes. Et pour moi, j'adore en fait, par exemple, le digital minimalism, c'est le fait de consommer le numérique de façon plus minimalisme, d'avoir, par exemple, aucun icône sur son bureau Windows, de mettre l'essentiel sur son bureau, enfin, sur son écran d'accueil sur Android, etc., ou sur son iPhone. Bref, je consomme en fait le minimalisme de façon numérique depuis un moment et je me suis dit, mais pourquoi pas le mettre sur un vêtement, même si ça existe déjà depuis moult années, mais voilà. Et je me suis dit aussi, mais pourquoi pas mélanger le design avec? Et du coup, voilà, ça m'est venu comme ça, de mélanger un petit peu les deux secteurs. Moi, j'aime beaucoup le design et le minimalisme. Je sais que Lucas aussi, qui va m'aider donc pendant son stage, aime aussi beaucoup le design. Il est très, très, c'est un très, très bon designer. Alors, du coup, forcément. Quand il est venu à l'idée de créer Suze, ben du coup, et cette charte graphique-là que tu m'as posée comme question. Pour moi, ça me semblait naturel d'intégrer le minimalisme et également le design, qui sont deux compétences, enfin deux choses que j'aime bien, deux univers que je trouve très intéressants et qui ont vraiment pour moi pouvoir à matcher, pouvoir à fonctionner ensemble. Et c'est pour ça que j'ai décidé dans cette charte graphique, qui est évidemment pas terminée encore, parce que on est pour l'instant sur Suze qu'en pré-lancement. Le lancement sera en octobre, là où vraiment le projet sera finalisé, qu'il y aura des ajustements, des nouveaux produits, voilà, il y aura des nouvelles coques qui vont arriver, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que. Ce qui est venu l'idée de cette charte graphique. Et après, si tu as d'autres questions, peut-être sur un produit que tu as vu, ou je sais pas, ou sur autre chose, et après, si tu n'en as pas, voilà, on peut peut-être terminer.
Alors, j'ai une dernière question.
Ok.
Sur les produits en tant que tels, j'en ai pas vraiment, parce que c'est des produits assez simples que j'aime bien et qui sont beaux. Mais est-ce que tu ne trouves pas que ça va être compliqué en 2021, donc presque 2022, de s'imposer comme marque de vêtements, alors que tu sais, il y en a beaucoup des marques de vêtements qui se créent tous les
Exact.
jours?
Je te remercie déjà pour dire que c'est joli. Mais oui, ça, je suis complètement d'accord. On a fait des études de marché, donc voilà. Enfin, j'ai fait une étude de marché sur le marché du vêtement et c'est ultra concurrentiel comme marché. Il y a tellement de marques de vêtements, il y a tellement de produits, tellement de concepts, etc. Après, forcément, on va dire qu'il y a une place pour tout le monde sur le marché. On n'a pas l'ambition, en tout cas sur les deux, trois prochaines années, d'être Nike, hein. On n'a pas l'ambition d'être Adidas, etc. On a l'ambition simplement d'être une marque, on va dire, un peu plus familiale, qui match un petit peu entre plusieurs deux univers, en proposant des accessoires un petit peu adaptés à chacun, etc. Donc voilà, on est dans une marque, dans une démarche assez personnelle. Aussi le fait qu'on propose plusieurs produits différents pour plusieurs prix différents. Voilà, nos t-shirts commencent à, il me semble, 13 euros, 14 euros, et ça va jusqu'à 30 euros, voilà, dans du t-shirt bio qualitatif. Donc on est vraiment sur plusieurs tranches tarifaires, et ça c'est pour moi essentiel. C'est-à-dire que je sais qu'on n'a pas tous les moyens de mettre 60, 20, 40, 50 € dans un produit, dans des vêtements, et c'est pour ça que certes, j'ai fait des concessions sur certains vêtements. Par exemple, sur celui à 13 €, ben, il sera forcément moins qualitatif en matière de conception que celui qui va coûter 30 €, qui lui est vraiment excellent en matière de qualité. Le coton bio, voilà, il vient d'Europe, etc. Donc voilà. Après, je vous le dis juste, vous qui nous écoutez. Je n'ai pas de produits de vêtements qui viennent de Chine, d'Asie, etc. J'ai essayé de trouver des prestataires auxquels je peux faire confiance au niveau de la conception, par exemple du côté où ça peut être recyclable. Au niveau des coques, par exemple, les coques sont 75% recyclables. Donc voilà, en fait, on a des arguments de vente aussi, Enzo et vous qui nous écoutez, qui sont assez intéressants et qui font que, du coup, forcément, des gens peuvent être intéressés donc, par l'univers, par la jeunesse de la marque, par simplement l'idée du projet. Voilà. Et du coup, c'est pour moi essentiel en fait. Après, évidemment, une envie personnelle de créer une marque de vêtements. Et voilà, il y a Lucas qui va m'accompagner un petit peu aussi. Et donc en fait, c'est aussi un rêve qui se réalise. Mais voilà, oui, comme tu le dis, c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Il y a beaucoup de monde dessus. Il y a tellement de marques qui fonctionnent pas, qui bident, mais il y en a aussi qui fonctionnent et on sait pas pourquoi aussi. Donc voilà. Mais oui, évidemment, faut avoir les moyens. Et à partir de quand, enfin, comme je dis et comme beaucoup disent aussi, soit on laisse faire le temps, c'est-à-dire que le temps va faire que la marque va réussir, soit on a les moyens de prendre des gens et de prendre des équipes. Donc c'est-à-dire qu'on n'a, je sais pas, 50, 60 000 euros dans son compte en banque et on peut donc embaucher des gens pour que la marque fonctionne mieux. On peut prendre une agence derrière de communication pour simplement mettre le site en avant sur plein de choses, etc. Ou après, on peut avoir la compétence, mais la compétence, ça s'apprend. Et voilà, donc forcément, moi, par exemple, je suis bon en communication, je suis bon en design, je suis pas trop mauvais en marketing, pardon. Mais il y a des choses que je ne sais pas faire correctement encore et je vais l'apprendre avec la marque. Et forcément, moi qui n'ai pas pété de thunes, hein, je suis un étudiant, ben, on va dire que c'est plutôt le temps qui va faire que soit la marque réussit, pardon, ou soit ce sera un échec. Mais ce sera pour moi un apprentissage de comment fonctionner une marque, etc. Et ça va être quand même assez intéressant. Et puis forcément, il y aura des gens qui vont venir aussi m'aider de temps en temps. Il y aura des gens qui vont faire des stages. Il y aura des gens qui vont m'aider pour des contrats de prestation. Donc je vais voir un petit peu comment fonctionne le monde professionnel directement. Et donc c'est que de l'apprentissage en fait, mine de rien. Et puis cette marque, forcément, moi ça me fait plaisir de la faire. Ça coûte de l'argent, mais c'est un réel, réel plaisir. Et oui, comme tu dis, pour s'imposer, ça va être compliqué. Mais évidemment, voilà, sur les 3-4 prochaines années même, hein, j'ai pas l'ambition d'être la plus grosse marque de vêtements en France, hein, mais j'ai juste l'ambition, on va dire, d'avoir un minimum de rentabilité sur le moyen terme. Je sais que je vais perdre de l'argent sur un an, hein, c'est pas grave fondamentalement, mais voilà, je suis content de faire cette marque-là, et puis j'ai quand même assuré aussi financièrement, on va dire, des besoins pour la marque, par exemple pour des besoins de communication, des besoins de prestations, d'animation, de motion design, etc. Donc voilà, j'ai quand même essayé de varier les prix sur plusieurs choses. J'essaie d'échelonner, on va dire, les paiements, etc., pour qu'on arrive sur une marque qui n'est pas, qui va pas être rapidement rentable, mais qui n'a pas un coût trop élevé, mais on reste quand même sur de la qualité, donc forcément, je réduis un petit peu les marges dessus, sur chaque produit. Mais au moins, voilà, pour vous qui nous écoutez, bah, si vous voulez commander un t-shirt à 13 euros, vous le pouvez. Et ça, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a un t-shirt pas trop cher, qu'il y a des coques de smartphone pas trop chères, qu'il y a vraiment des produits pas trop chers. Et ça, moi, ça me plaît. Et puis, il y a des gens qui veulent, par exemple, de la qualité au niveau des polos, au niveau des vêtements bio, au niveau des pulls. On est sur des produits bien plus quali, bien plus réussis, enfin, bien plus réussis, bien plus épais, pardon, en matière de coton, etc. Et ça aussi, ça compte. Voilà, si vraiment la qualité, vous la voulez, ben vous pouvez l'avoir sur Suse, mais si vous souhaitez avoir plus quelque chose de léger, mais également de plus accessible, mais qui durera quand même sur le moyen terme, ben vous pouvez également prendre des t-shirts un peu moins chers. Et voilà, comme ça, il y a une offre pour tout le monde s'y retrouve sur Suse, et c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important. Et après, encore une fois, j'ai tout à apprendre au niveau de la publicité, tu me diras, hein, mais au niveau du storytelling, que je ne maîtrise pas encore à 100%, au niveau de l'aura, enfin de quand je parle de ma marque, à des gens, etc. C'est des pouvoirs, enfin, c'est des compétences d'orateur. Je sais pas si tu les as toi personnellement, les compétences d'orateur, de fait de raconter une histoire, etc., autour d'une marque. Mais voilà, en tout cas, pour ce que je pouvais dire sur Sous, ça a duré un peu longtemps. Je suis désolé, Enzo, je t'ai pas laissé la parole, hein. Mais voilà, ce que je pouvais dire. J'ai un peu pitché, je suis parti dans un gros, long truc, mais bon voilà. Après, si t'as une dernière question, ou sinon, on peut conclure sur ça comme tu veux.
Ça prouve que ta marque te tient à cœur, on va dire.
Exact, c'est important pour moi, hein. C'est un truc que j'ai. Enfin,
Eh
ça me
ben,
plaît.
du coup, non, j'ai pas d'autres questions. On va partir sur un autre sujet, si tu me permets de lancer la
Vas-y,
prochaine
pas de
rubrique.
soucis.
On va partir directement à Washington, à Amazon. Donc, la prochaine question et le prochain débat qu'on va faire ensemble, c'est penses-tu que le e-commerce va prendre le dessus sur les magasins physiques? Donc, quand je dis pourquoi on part à Washington, parce que bien sûr, je parle du géant Amazon.
Alors, pour essayer de te répondre à cette question, parce que c'est une question qui est très complexe, Amazon, c'est tellement plus, enfin, c'est plus puissant que certains États, hein, tu me confirmeras ça, j'imagine. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Amazon, c'est énorme. Amazon, c'est un écosystème comment dire, de e-commerce à l'international. On l'appelle souvent le lanceur de e-commerce. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Enzo, mais voilà, c'est incroyable la puissance d'Amazon. Et du coup, oui, on peut vraiment penser que comment dire, que oui, Amazon, vraiment, ça peut faire disparaître certains commerces physiques, mais moi je pense quand même qu'il y a des groupes qui vont tenir s'ils sauront se réinventer. Mais en fait, Amazon, oui, là où ils ont été très forts, c'est qu'en fait, ils ont compris une chose, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est prendre soin de ses clients. Donc, c'est-à-dire ton client, il est roi. Et ça, beaucoup d'enseignes de magasins physiques ne l'avaient pas compris. C'est que ton client, il est roi. Ton client, quand il veut ça, il a ça. C'est-à-dire qu'il a un défaut sur le produit, tu le rembourses. Il a un problème, j'en sais rien, au niveau de. Il comprend pas comment fonctionne le produit, t'as un SAV qui est fait pour ça. Le client, il est roi sur Amazon. Il y a des fois où, quand j'étais plus jeune, j'allais chercher des livres dans une bibliothèque. Donc avant que je prenne mes trucs sur Amazon et ensuite que j'ai mon Kindle, par exemple, la bibliothécaire connaissait pas forcément bien mes goûts, elle connaissait pas forcément, même pas mon nom en fait, même pas qui j'étais. J'étais juste un vulgaire client, on prenait pas soin de moi. C'est-à-dire, je prenais ce livre, bonjour, voilà, ça fera tant, au revoir, tu vois. Enfin voilà, et ça moi je trouve qu'on prend pas soin du client quand on fait ça. Et pourtant j'y allais, mais oh, j'y allais tellement souvent, j'y allais peut-être 4-5 fois par mois à cette bibliothèque-là, et pourtant les personnes dedans étaient très froides, pas forcément très commerçantes, etc. Il y a plein d'exemples comme ça d'endroits où c'est pas familial, où le client n'est pas roi au final et il se sent pas forcément toujours bien. Et pour moi, Amazon a l'avantage de ça, c'est que les algorithmes te recommandent en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ce que tu veux. Tu as vraiment un vrai SAV qui est performant. Alors après, on peut parler des conditions de travail, etc. J'imagine que c'est loin d'être parfait, mais voilà, en tout cas, pour moi, ça va pas faire disparaître le commerce physique, mais ça va faire disparaître les mauvais commerces physiques. Et ça, c'est toute la nuance qu'il faut avoir. C'est que, par exemple, il y a des chaînes de magasins qui ont bien compris qu'il fallait avoir du e-commerce, l'intégrer dans ses magasins physiques. Je pense, par exemple, au groupe Fnac, qui peut profiter par rapport à Amazon de ses magasins physiques. Par exemple, tu commandes sur Fnac, tu veux que ça soit déposé, par exemple, à la Fnac, j'en sais rien, à Paris, à Toulouse, où tu veux, en fonction de ta bite. Et tu vas chercher ton produit quand tu veux, t'as 30 jours, t'as des casiers, c'est tout vraiment bien fait, c'est sécurisé, t'as pas de problème de livreur de UPS qui te perd le colis, qui te le balance par la fenêtre, etc. Parce que c'est tout au sein de Fnac que c'est fait. Et directement, s'il y a un problème, en fait, tu peux le voir avec les gens chez Fnac. Et moi, je trouve que ça, par exemple, le groupe Fnac Darty a bien compris qu'il faut profiter et prendre ces magasins physiques, pardon, comme une opportunité. Et moi, je trouve ça génial. Donc, voilà, Amazon a de la concurrence avec des magasins physiques, mais forcément, Amazon est le plus gros. Amazon, c'est le grand du e-commerce qui propose de tout et qui a même, il me semble, des magasins physiques aux États-Unis qui sont complètement automatiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur ce sujet. Si tu as autre chose à rajouter, je sais pas trop, hein, mais voilà.
Par exemple, excusez-moi, par rapport au casier sécurisé que tu as dit là, je crois qu'Amazon aussi, ils ont des Amazon Locker.
Locker,
je
sais pas quoi, ouais.
Un,
ouais.
Un peu un même style comme ça, ouais, c'est ça que j'allais, sur, que j'allais revenir sur ça. Oui, aussi, voilà, Amazon aussi, ils ont des magasins physiques aux États-Unis. Mm. Après, moi, je pense que le e-commerce hein, ne menace pas la disparition de magasins physiques, mais aussi, avant ouais. même le virus, on parle beaucoup du e-commerce à cause du virus, les gens allaient rester chez eux, donc commander sur Internet, mais même avant, je pense qu'en Europe, hein, et surtout en Asie, on laisse place à du off et offline. Donc, en fait, par exemple, je vais te dire n'importe quoi, tu vas au Auchan, t'as une caissière, mais à côté, t'as aussi les caisses automatiques, tu vois.
Ouais.
Donc, je pense que c'est vraiment l'imbrication de deux environnements et qui va rendre hybride, en fait, le magasin. Donc, je pense plus que les magasins physiques vont changer et se moderniser, même se diversifier. Mais comme tu dis, le e-commerce ne remplacera jamais le monde physique parce que il y en a qui aiment bien aller chercher leurs vêtements,
ou les
aller
voir même en vrai. Ouais.
Même le contact client aussi, c'est peut-être ça. Le virus, beaucoup ont perdu le contact client.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais, non, mais je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit, hein, même complètement d'accord. C'est ça peut pas faire disparaître les magasins physiques parce qu'en fait, forcément, pour lutter contre cette concurrence-là, ces magasins physiques se réinventent. Par exemple, je pense au groupe Casino. Genre le dimanche, il me semble, si je me trompe pas, il y a personne dans le magasin. T'as juste le mec de la sécurité. En tout cas, dans mon casino près de chez moi, c'est comme ça. Et t'as juste l'application Casino Max, si je me trompe pas, ça doit être ça son nom. On va pas faire de la pub non plus pour Casino, hein, mais mais voilà, c'est tout automatique. Tu fais tes courses, t'as pas le droit d'aller dans le rayon alcool parce que c'est interdit, enfin voilà, c'est légalement, mais tu peux faire tes courses, il y a personne, tu passes à la caisse, automatique, tu t'en vas. Donc voilà, il y a personne et au final c'est tout automatique. Et donc ça en fait ça existe déjà, mais c'est juste que c'est pas encore ancré dans nos habitudes, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai jamais fait mes courses comme ça encore, hein, donc voilà, donc c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est pas ancré du tout dans nos habitudes d'arriver comme ça. Tu sors ton tel, tu fais tes courses, tu scannes tout ce que tu t'achètes, tu passes à la caisse automatique, tu payes. Voilà, enfin, par exemple, je vais prendre un exemple vraiment où on est dans un autre monde. On arrive, genre, au magasin, ça, tout s'ouvre automatiquement, on contrôle, genre, si tu. Voilà, avec ce que t'as automatiquement, j'en sais rien, avec une borne, si, genre, ce que tu portes sur toi, pour voir, évidemment voir que si t'as rien volé et tout. Tu fais tes courses, donc, avec ton smartphone, tu scannes tout. Genre, t'arrives à la caisse, tu payes avec ta montre et tu t'en vas. Tu vois, genre c'est et t'es scanné à la fin pour vous regarder si t'as bien rien volé que tu portes sur toi, etc. Et il y a personne dans le magasin. Genre t'arrives, c'est automatique. Tu vois, genre ce serait incroyable. Mais moi je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver. Tu vois, c'est en tout cas le groupe Casino, on le voit bien que c'est on n'est pas loin d'être près de ça quoi. Donc ça, je pense vraiment que c'est le magasin physique. Que, voilà, des gens aimeraient quand même bien voir
après,
les produits
là,
en vrai.
On est sur de l'intelligence artificielle, donc
ouais.
Y a certains métiers qui sont voués à disparaître avec l'intelligence artificielle. Je pense aux caissiers, par exemple,
c'est ça.
Si on parle des caisses, hein, parce qu'il n'y a plus de caisses, des caisses automatiques, mais il n'y a plus de personne. Donc oui, après, pour revenir sur la Fnac, donc du coup, tu vois, donc, par exemple, Fnac, ils ont leur site de e-commerce, hein, tu peux acheter en ligne,
ouais.
Mais ils ont aussi leur click and collect et leur point relais pour aller chercher dans ton magasin. C'est-à-dire qu'eux deux, ils allient les deux, en fait, pour...
Voilà.
C'est quelque chose de très très bien,
oui. Ouais, non, mais oui, ils sont très très bons dans l'idée, en tout cas. Et moi, je trouve que déjà, le fait que Fnac et Darty, ils ont matché ensemble, je trouve ça bien parce que du coup, ça fait deux fois plus de magasins. Et donc, ça, c'est top aussi. Et du coup, parce que dans ma vie, par exemple, j'ai un Fnac et un Darty. Du coup, bah, je peux aller chercher chez Darty, etc. Enfin, voilà, je commande sur Darty, je vais chez Darty, je commande sur Fnac, je vais chez Fnac. Mais c'est le même groupe, au final, on retrouve souvent les mêmes produits, les mêmes promos, etc. Donc ça fait plus deux fois plus de trafic puisque les deux sites sont quand même assez populaires, même si moi j'avoue que j'ai une préférence pour Fnac, mais voilà, les deux sont vraiment au top. Et voilà, c'est non pour le coup, c'est la bonne réaction française. Moi je l'aime bien comme ça, c'est quand elle utilise, on va dire, ses arguments, elle a une opportunité d'être plus intelligent qu'Amazon, parce qu'Amazon n'a pas de magasin physique. Amazon dépend complètement de ses locaux et tout. Le jour où il y a un loco qui crame, ben, ils sont pas, voilà, ils sont dans la sauce, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, Fnac a un réseau de magasins qui est tellement grand, enfin le groupe Fnac Darty, donc eux ils ont vraiment compris le bon truc. Et ouais, ça m'arrive de commander sur Fnac plutôt qu'Amazon, où j'ai aussi un site que je connais qui s'appelle Macway, qui a des magasins aussi physiques, qui est un spécialiste donc des produits Apple, et qui pareil, qui a une superbe boutique en ligne avec de vraies bonnes promotions qui sont parfois plus intéressantes qu'Amazon. Donc voilà, aujourd'hui Amazon c'est plus du tout le seul, enfin là, il y a plein d'alternatives qui sont très très bien, mais Amazon évidemment en matière de service client et tout, comme j'ai dit, c'est quand même les boss quoi, enfin c'est incroyable. Donc voilà pour
De
ce
toute
qu'on...
façon, le e-commerce et les magasins physiques l'insèrent en effet aux intérêts de l'autre, hein,
C'est
dans tous les
ça.
cas. Hein.
Ouais, bah ouais, je suis complètement d'accord.
L'un
Complètement.
n'est rien sans l'autre, de toute façon, entre
Ouais.
le e-commerce et le truc.
C'est
Parce que tu
ça.
vois, par exemple, on va prendre l'exemple d'un magasin physique. Des fois, tu vois des gens, ils vont aller regarder, faire du repérage. Par exemple, le mec, il veut un canapé. Un canapé, qu'est-ce que je raconte? À la Fnac, un canapé, je pense pas. Mais le mec, il veut une télé. Il va aller à la Fnac regarder ce qu'il veut, s'il repère.
Ouais.
Donc du coup là il est en magasin physique et cette télé qu'il a repérée pour essayer d'avoir des promotions, eh ben il va passer par du e-commerce quelque part d'autre. Tu vois ce
C'est
que je veux dire?
ça,
Donc en fait
ouais.
le consommateur va faire du repérage en magasin donc pour faire l'expérience du produit, le voir en vrai, tac tac tac. Et ensuite il va aller le commander sur Internet pour avoir des prix
Ouais.
plus intéressants.
C'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs maintenant. Enfin, genre, même moi, je pense que ça m'est arrivé de le faire. Je crois que c'était pour les petites enceintes Google. J'ai regardé en vrai. Je l'ai même acheté en magasin physique, du coup, le premier. Parce que je voulais vraiment voir, en fait, ce que si c'était vraiment si bien que ça, etc. Et ouais, du coup, je l'ai pas pris en e-commerce. Alors que j'aurais pu peut-être le payer un peu moins cher et tout. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir, j'en sais rien, à IKEA, à la Fnac, genre, physiquement, ce qu'est le produit. Ensuite, peut-être qu'il commande sur Fnac lorsqu'il y a les Black Friday, il commence sur Darty, sur j'en sais rien, Boulanger, etc. Même sur Amazon. Et donc voilà, non, mais comme tu dis, c'est quand même deux choses qui sont liées. Parce qu'au final, même on y pense, mais Amazon c'est du e-commerce. Mais Amazon, ils ont des locaux. Et les locaux, au final, c'est des magasins auxquels on ne peut pas y accéder, nous. Mais c'est des magasins, en fait. C'est bête. Mais le locaux de Amazon à Montélimar, c'est un truc qui est immense. Mais en fait, c'est un magasin. C'est un magasin juste qui n'est pas fait pour les clients, qui est fait on va dire, pour les équipes d'Amazon qui, eux, ensuite assurent une livraison. Mais voilà. En
Oui,
fait,
voilà pour plateforme logistique, quoi.
c'est ça exactement. Donc en fait, ils ont une base physique, donc c'est pas que du digital partout. Donc c'est ça en fait, c'est quand même du physique Amazon mine de rien. Donc mais bon, il y a une vraie expérience client qui est quand même pas mal, même si bon, je trouve, on va dire que l'application Amazon par exemple n'est pas terrible terrible. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Bref, voilà. Je pense. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, je pense, des différents sujets qu'on a abordés? Peut-être si t'as une autre, t'as rien à rajouter?
Je pense effectivement qu'on a fait le tour. Après, moi, j'ai rien à rajouter de
Ouais.
plus.
Moi non plus, hein, je pense que voilà, on va terminer sur ça, je pense.
Pense que ouais, si t'as rien à rajouter.
Non, je pense que c'est bon, on a parlé d'un peu de tout. Donc n'hésitez pas à nous dire pardon, ce que vous pensez. Donc sur les réseaux sociaux de Enzo, donc n'hésitez pas à les suivre. C'est quoi tes réseaux? Du coup, t'es sur Insta, c'est ça?
Insta, Facebook et c'est tout. Ouais.
Ouais,
Insta,
ok.
Facebook, ouais.
Ok, donc vous tapez Enzo Peruccio, et voilà, si vous avez des questions à lui poser, bah, n'hésitez pas. Et puis moi, pareil, hein, donc c'est Romain Le Phocéen si vous cherchez sur les réseaux. Mais bon, après, moi, je pense que vous me connaissez. Puis si vous ne me connaissez pas, bah, vous tapez Romain Le Phocéen sur YouTube et vous avez tous les réseaux dans la description, vous avez le Discord, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis je pense qu'on va terminer sur ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup Enzo, hein, pour ce podcast, c'était top.
De rien, c'est moi Romain, merci de m'avoir invité sur le plateau.
Bah écoute, avec plaisir, et puis on en fera une prochaine. On essaiera d'être un peu plus régulier que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, on va essayer d'en faire le plus possible pour essayer d'en avoir 3 par mois pour vous qui nous écoutez. Donc voilà, c'est notre objectif, on va dire, pour commencer. Et puis voilà, on termine ce podcast sur ça. J'espère évidemment que cela vous a plu, hein. Et puis n'hésitez pas à nous le dire simplement sur les réseaux avec donc ceux de Enzo, comme on a dit tout à l'heure, et les miens. Sur Discord également, il y a une rubrique qui s'appelle Tech Time React, qui est disponible. Donc si vous avez envie, pardon, de réagir, n'hésitez pas. Et puis on se dit donc pour nous à la prochaine pour un prochain podcast et de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Romain Le Phocéen. Et puis je vous dis à très vite. Allez, salut!